Infomag.
Infomag,
le magazine de la rédaction.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui en ce mardi 16 avril, c'est l'heure de votre Infomag. Au sommaire, aujourd'hui nous parlerons des commémorations qui se dérouleront sur le Morvan en mai et juin à l'occasion du 80e anniversaire de la libération en Morvan et plus particulièrement sur les secteurs de Chalot, Saint-Martin-du-Puy et Marigny-l'Église. Dans le programme 2024, des activités mémoriales s'échelonneront de mai à septembre, dont certaines en partenariat avec l'amicale du Maquis du Loup, en particulier pour la libération de Clamecy en septembre prochain. Nous parlerons également du Maquis Camille avec un des membres de l'amicale, Thierry Gerby. Il nous présentera les différents rendez-vous de ces commémorations. D'œil sur les titres de l'actualité locale que nous développerons tout à l'heure et nous parlerons des bistrots dans le fait du jour du journal du centre. Le manque de médecins pose des problèmes pour les injonctions de soins. Santé, une nouvelle bourse en direction des étudiants en médecine vers une IGP pour les sapins de Noël dans le Morvan. À Moulins-Gilbert, retour sur un joli projet mené par les élèves du lycée agricole de Château-Chinon. Et puis la saison touristique de la communauté de communes Morvan, Sommet et Grand Lac a été lancée au domaine de Saint-Loup des Bois à Saint-Agnan. Puis nous vous le disions en titre, nous sommes à présent avec Tom Erard, président de l'association Dream, et nous parlons para-rafting, car en effet, ce 9 mai, la première descente sera organisée au départ de Plainfa. Des personnes en situation de handicap vont pouvoir tester un nouvel équipement qui permet de faire des descentes en rafting sur le Chalot et la Cure. Un équipement qui a été travaillé par l'association AN Rafting et l'association Dream. Pour en savoir plus, nous écoutons donc son président, Tom Erard.
À l'occasion du 80e anniversaire, l'amicale du Maquis Camille organisera un rendez-vous le 14 juin prochain. Nous accueillons un des membres de l'amicale du Maquis Camille, monsieur Thierry Gerby. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Merci de m'accueillir à Radio Morvan.
Alors tout d'abord, on va quand même faire une présentation de ce Maquis Camille. On sait que le Morvan était une terre de maquis.
Oui, tout à fait. Une des plus importantes d'ailleurs en France à cette époque-là, puisque les maquis, pour ne pas citer que le Maquis Camille, hein, pour les plus connus, Maquis Bernard, Maquis Socrate, le Maquis Mario, le Maquis Louis, et tous les autres, hein, bien évidemment. Donc le Morvan accueille durant la guerre une bonne partie des réfractaires au STO, hein, qui notamment quittent la région parisienne, s'installent en fait dans les forêts, sont accueillis par la population, travaillent un petit peu comme bûcherons et sont protégés, je dirais, un petit peu par l'environnement géographique des forêts, les eaux vives, donc ils trouvent assez facilement à s'installer, à être justement un petit peu masqués des axes fréquentés par les Allemands. Et cette population de réfractaires au STO va contribuer notamment à faire augmenter les effectifs des maquis sur la période particulière de 1944. Et le maquis Camille sera un des maquis les plus importants de cette période, avec sur l'été 1944 plus de 1000 hommes et femmes, puisque les femmes étaient importantes aussi dans toute la partie commandement, logistique, message, agent de liaison, etc. Et le Maquis Camille occupera une place très importante, notamment grâce au profil de ses fondateurs, donc Paul Bernard Camille et Grand Jean, qui était donc Jean Longhi, et qui était donc responsable des FFI donc pour la Nièvre, avec le colonel Roche. Voilà. Et donc le Maquis Camille, pour resituer un petit peu géographiquement, s'installe dans le secteur. Alors on est sur un secteur assez vaste, mais s'installe à proximité donc dans les bois de Vermeaux, et ensuite aura différents emplacements. Et en ce qui nous concerne, et j'en reparlerai tout à l'heure, un emplacement à la ferme d'Ego avec le PC, l'hôpital. Voilà, donc très important pour cette période-là. Et la particularité, ce qui constitue l'objet de ce que l'on va présenté pour les 80 ans, c'est également l'accueil de l'état-major du colonel Rondenay, André Rondenay, qui est le délégué militaire de zone nord, donc la zone occupée, dans un premier temps pour la zone parisienne. Et le 6 juin, donc, il arrive comme délégué donc militaire de la zone nord, donc zone occupée. Alors la zone occupée, pour nos auditeurs, pour resituer un petit peu, c'est la moitié de la France, plus toute la bande côtière de la Belgique à la frontière espagnole. Donc c'est très très important. Et il arrive le 6 juin avec tout son état-major de la région parisienne et s'installe auprès du maquis Camille. Alors dans un premier temps, à un endroit que l'on appelle le château de la Chaumeauveau, à proximité de Brassy. Après s'être installé au château de la Chaumeauveau et au moment des combats de l'Orme le 12 juin, où ces éléments, les éléments du colonel Rondenay et également du maquis Julien, donc qui ne s'appelait pas encore maquis Julien à ce moment-là, mais sous les ordres de Pierre Ringuier, ils vont quitter le château de la Chaumeauveau pour rejoindre vraiment le maquis Camille à Vermeaux. Voilà.
Combien d'hommes comptait le maquis Camille? Ils ont commencé une vingtaine et ça s'est tendu par la suite.
Alors c'est un maquis qui n'a cessé de progresser. C'est d'ailleurs un des plus anciens du Morvan, puisque nous avons même des parachutages qui sont arrivés très très tôt et par les Britanniques dans le secteur donc de la forêt au Duc. Le maquis ensuite a vraiment pris son essor sur la fin de 1943 et début 1944, et pour connaître une pleine dynamique à l'été 1944 avec plus de 1000 hommes.
Il faisait partie de ces maquis qui étaient très actifs.
Maquis très actifs, et surtout un maquis qui a cherché aussi à, notamment par la personne de Jean Longhi, Grand Jean à l'époque, son nom de maquis, à fédérer les autres maquis, à accueillir aussi les missions interalliées, donc qui étaient les missions interalliées donc de SAS, donc Special Air Service britannique, une des plus importantes de l'opération d'ailleurs Overlord, qui vient s'installer avec deux grosses équipes, donc à la fois donc auprès du maquis Camille et auprès du maquis Bernard. Mais le PC des SAS était au Maître Chalot, à proximité du PC du maquis Camille, donc le chef des SAS à cette époque-là pour cette mission, donc la mission Ainsworth, était le major britannique Bill Fraser. Et la personne de Camille et de Grandjean, enfin les personnes autour de ces deux chefs, vont fédérer à la fois les missions interalliées, à la fois l'accueil du PC d'André Rondenay, avec des équipes notamment de saboteurs venus de la région parisienne, et fédérer les liaisons avec les autres maquis. Donc le maquis Camille avait un rôle assez central dans le dispositif global des maquis du Morvan.
Et puis il ne faut pas oublier de dire, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, dans ces maquis il y avait des hommes, mais également des femmes, comme dans celui-ci, le maquis Camille, il y avait par exemple deux infirmières.
Oui, alors nous avions à cette époque-là, au niveau du maquis Camille, donc les infirmières qui étaient à la ferme d'Ego, puisque la ferme d'Ego était transformée en hôpital. Mais avant la ferme d'Ego, le château de Vermeaux, qui a été attaqué par les Allemands, et dont je reviendrai tout à l'heure, nous commémorerons les combats de Vermeaux donc au mois de juin 1944. Donc ces emplacements étaient également des postes de soins, donc des infirmeries ou des hôpitaux de campagne, comme on peut les appeler. Et on avait effectivement des infirmières, mais pas que des infirmières. Il y avait également des femmes qui sont arrivées avec André Rondenay, d'ailleurs son épouse, et sœurs que l'on appelait les sœurs Bouloche, donc qui étaient les sœurs de son prédécesseur, André Bouloche, qui était délégué militaire avant lui, mais qui malheureusement avait été arrêté par les Allemands. Et donc toutes ces femmes arrivent dans le Morvan pour remplir des missions très importantes, des missions que l'on appelle dans le domaine militaire, en termes de transmission, le chiffre, c'est-à-dire tous les messages codés. Elles s'occupaient de la radio, elles s'occupaient de l'intendance, de la logistique, et on a pas mal de témoignages où certains sont quelquefois surpris d'arriver sur les sites des postes de commandement des maquis et de trouver les femmes armées en train de garder un petit peu la base arrière pendant que certains sont en train de mener des actions de guérilla, d'embuscade dans le Morvan. Voilà. Et elles servent bien évidemment d'agents de liaison. Alors on mettra également à l'honneur une figure importante du maquis qui était agent de liaison auprès des SAS, donc Paulette Lantier, qui résidait à l'Orme, qui était une figure de l'Orme, puisque elle était institutrice et elle a elle a œuvré toute sa vie sur sa commune de Lormes. Et pendant la guerre, ce que les gens, puisqu'elle était très discrète, ce que les gens ne savaient pas, ou peu, c'est qu'elle avait été agent de liaison du maquis Camille. Elle était dans la clandestinité, elle s'occupait, comme elle parlait anglais, elle s'occupait de la liaison avec les SAS britanniques. Et donc cette année, particulièrement, nous souhaitons lui rendre hommage, et nous déposerons le 12 juin, lors des commémorations des combats de Lormes, une plaque du maquis Camille sur sa tombe, et normalement en 2025, des délégations britanniques seront présentes pour déposer également une plaque en mémoire des SAS et de l'action qu'elle a eue auprès des SAS.
Est-ce que les Allemands ont réussi à aller jusqu'au maquis Camille ?
Alors oui, il y a eu effectivement contre le maquis Camille des attaques qui ont été repoussées. Alors elles ont été repoussées, alors, là c'est pareil, ça surprendra peut-être nos auditeurs, mais le maquis Camille était déjà bien organisé à ce moment-là, et bénéficiait déjà de l'aide et l'appui des SAS britanniques, à qui on avait parachuté des canons. Donc ce que l'on sait peu, hein, puisqu'on imagine assez mal à cette période-là du matériel assez lourd arrivé par le ciel, eh bien c'était le cas, puisque les jeeps étaient parachutés, des canons, donc il y a eu deux canons, deux pièces d'artillerie qui ont été parachutées, et lorsque les Allemands ont voulu attaquer le maquis Camille, l'attaque a été notamment repoussée grâce à ces canons et à ces mortiers qui avaient été parachutés, ce qui a été une surprise totale pour les assaillants, et qui finalement ont battu en retraite assez rapidement. Donc ça a permis de préserver le site et le PC de la ferme d'Ego.
Des victimes au sein des soldats du maquis ?
Oui, il y a eu plusieurs victimes, malheureusement, comme dans tout combat. Et alors les pertes étaient bien évidemment plus élevées côté allemand, mais le maquis Camille a connu également des pertes et puis des blessés qui ont pu être traités à l'infirmerie. Et d'ailleurs, des blessés allemands avaient été récupérés aussi et soignés auprès de l'infirmerie du maquis Camille.
Et puis on peut peut-être rappeler, il existe un registre du maquis Camille.
Il existe un registre. Le registre donc est au musée de Saint-Brisson, qui réalise une très belle action de mémoire, bien évidemment. La Rorme travaille d'arrache-pied également pour commémorer ses 80 ans, et nous travaillons ensemble. Alors nous sommes en complément, puisque notre association propose des activités en complément de ce que propose la Rorme pour les 80 ans, mais on travaille comme à l'époque, j'irais, en bonne intelligence, et pour rehausser un petit peu ces cérémonies du 80e anniversaire.
Alors justement, on va en parler de ce qui va se passer pour ce 14 juin lors de ces cérémonies qu'on va retrouver d'ailleurs partout en France.
Oui, alors en réalité nous avons différentes dates. Les cérémonies commenceront à partir du mois de mai. On aura le 1er mai à Vermeaux, donc la commémoration des combats de Vermeaux. Alors le 1er mai, on a voulu volontairement placer ça sur une journée qui permettra aux personnes de se rendre plus facilement, puisque c'est un jour férié. Et nous aurons une cérémonie à 10h30 à la stèle du maquis Camille, donc sur la commune de Dun-les-Places, avec notamment une petite exposition également sur les combats de la bataille de Vermeaux, avec quelques figures qui seront présentées qui ont pu être importantes durant ce combat. Et nous avons voulu volontairement choisir une date un peu différente du 26 juin, qui correspond au massacre de Dun-les-Places. Et la Rorme a également une belle journée mémorielle de prévue pour les 80 ans le 26 juin. Et il est toujours difficile de commémorer à la fois une bataille et à la fois un massacre. Et comme on a notre village martyr qui est un petit peu notre oradour local, pour laisser toute la place malheureusement à cet événement tragique. Ensuite, nous nous déplacerons sur Château-Chinon le 3 mai et le 4 mai, sachant que sur cette période-là, le 35e régiment d'infanterie sera présent dans la zone du Morvan pour effectuer des manœuvres, et des détachements du 35e régiment d'infanterie sont présents sur les différentes dates, à partir du 1er mai, donc à Vermeaux. Et la particularité du 35e régiment d'infanterie, c'est qu'il porte dans ses plis Résistance Bourgogne 1944. C'est-à-dire qu'au moment de la fin de la guerre et au moment de l'amalgame, où les armées françaises vont amalgamer les résistants à l'armée de Lattre, les maquis vont fournir des bataillons qui vont reconstituer en fait ces régiments d'infanterie, à ce moment-là pour repartir donc sur l'Alsace et ensuite la campagne d'Allemagne. Et donc le 35e régiment d'infanterie fait partie de ces régiments héritiers de ces traditions, de ces combats de la résistance. Donc c'est pour nous un grand honneur de pouvoir les accueillir pour les 80 ans dans le Morvan. Et donc Château-Chinon organise le 4 mai une cérémonie très importante, donc en fin de matinée au stade Chevrier, avec notamment une présentation dynamique des moyens du 35e régiment d'infanterie, comme par exemple les véhicules blindés du combat d'infanterie, qui sont de gros véhicules qu'on voit traditionnellement sur les Champs-Élysées lors du défilé du 14 juillet. Ceci devrait donner l'occasion d'une belle démonstration avec un scénario donc qui sera rejoué pour le public autour du stade Chevrier. Et le 3 mai au soir, donc il y aura une conférence à la salle Louise Michel sur donc les opérations interalliées en Morvan, et notamment la présentation d'une des figures importantes, le major Bill Fraser, qui commandait l'opération SAS à Unsworth. Voilà, donc ça c'est pour la partie du mois de mai. Très rapidement, donc nous aurons des commémorations bien évidemment également pour le 8 mai hein, sur les différentes communes avec lesquelles nous travaillons ces commémorations. Pour le mois de juin, donc nous serons cette fois-ci sur le secteur alors de l'Orme le 12 juin pour les combats de l'Orme, avec une journée commune entre le maquis Camille, le programme proposé par la Rorme avec les scolaires, plus des débats sur les livres qui sortiront très prochainement de Jean Vigreux et de Thierry Martinet hein, sur les figures qui étaient Camille et à la fois Jean Longhi, notamment le livre de Thierry Martinet intitulé « Amis entends-tu ». Un moment mémoire, comme je vous l'ai dit, pour Paulette Lantier. Le 14, donc nous serons cette fois-ci à la ferme d'Ego, ce qui sera notre événement majeur, en tout cas pour le maquis Camille pour cette année, avec une journée du 14 juin donc dédiée aux scolaires, avec la présence de hautes autorités, puisque nous avons eu la chance de déposer un dossier dans le cadre du groupement d'intérêt public des 80 ans, et notre dossier a été retenu donc au niveau de la Nièvre pour contribuer aux propositions de niveau national. Ce qui nous donne un rayonnement, ce qui positionne pour la première fois les maquis du Morvan au niveau de la Normandie et de la Bretagne hein, pour les opérations qui avaient eu lieu dans le cadre d'Overlord, hein, puisque, je le dis pour nos auditeurs, ce qui est peu connu, c'est que le Morvan était la pointe du dispositif de l'opération Overlord. Les unités qui ont été parachutées au mois de juin, donc à partir du 6 juin, étaient des unités intégrées au plan Overlord du débarquement. Et dans ce cadre, elles étaient dédiées à harceler les Allemands, à renseigner sur leur dispositif, à couper les différents axes est-ouest, nord et sud, couper les communications, renseigner, former les maquis. Alors Londres avait, avec les forces françaises, donc à Londres, décidé que le Morvan était un des môles défensifs les plus importants, puisque le premier massif véritablement abritant une quantité importante de maquisards, puisqu'on avait plus de 10 000 hommes en armes à ce moment-là, déjà identifiés par Londres, avec des agents qui étaient venus repérer déjà des zones de parachutage, de manière à pouvoir, alors ce que les personnes savent un petit peu moins, à pouvoir éventuellement créer une zone de non-droit pour les Allemands au cœur de la France, pour potentiellement libérer le territoire français de l'intérieur dans l'hypothèse où le débarquement n'aurait pas réussi. Donc on avait dans les plans alliés deux hypothèses. Un débarquement qui réussit avec une tête de pont qui permet ensuite d'exploiter le succès sur la côte pour pouvoir rentrer, pénétrer et libérer la France par les côtes. Et bien évidemment, l'autre hypothèse était que dans les premières heures, les Allemands rejettent en fait les alliés à la mer. Et là, il aurait fallu utiliser un plan B, et le plan B en fait reposait sur les unités parachutées dans le Morvan, ce qui est peu connu mais qui est finalement ce qui est primordial dans le plan général. Et dans l'hypothèse où la tête de pont soit prise, ce qui a été le cas, ces unités allaient permettre de couper les Allemands de leurs axes, de pouvoir les perturber dans leur progression, les renforts harcelés sur les différents axes, etc. Donc au niveau de la ferme d'Ego, hein, le 14 juin, donc une journée dédiée aux scolaires, avec une cérémonie donc le matin à partir de 10h30, et ensuite des expositions thématiques, c'est-à-dire qu'on remettra un petit peu la ferme d'Ego dans son contexte de 1944, avec à la fois donc un camp de toile, les véhicules anciens, du matériel de l'époque, et donc des grands témoins qui seront également présents, qui ont vécu cette période, même s'ils étaient jeunes. Hein. Normalement, nous aurons probablement la présence des derniers résistants et déportés qui sera présent à la ferme d'Ego. Et ces thématiques donc tourneront autour de donc du maquis Camille, pour expliquer en fait ce qu'est le maquis Camille, la position, la ferme d'Ego, mais également André Rondenay, les compagnons de la Libération qui l'ont accompagné et qui, pour certains, ont laissé leur vie sur nos terres. Les femmes dans la résistance, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Le major Bill Fraser et l'opération SAS Soundworth. Une thématique également peu connue autour des carpetbaggers. Alors les carpetbaggers, ce sont les unités aériennes qui parachutaient le matériel. Et nous avons malheureusement un événement tragique dans le Morvan durant l'été 1944. Donc le 18 juillet, deux appareils se sont écrasés en larguant du matériel sur une même zone, sur la commune de Marigny-l'Église. Et il y a 10 ans, pour les 70 ans, nous avions recherché les familles de ces équipages américains et britanniques. Et certaines familles étaient déjà revenues donc pour les 70 ans. Et cette année, donc, nous allons continuer à les mettre à l'honneur. Et nous continuerons également en 2025, puisque nous avons des projets de monuments pour ces opérations interalliées qui devraient voir le jour pour finaliser en fait les 80 ans, fin de guerre 1945. Les villages martyrs et la répression sera également au cœur des sujets et des problématiques. La bataille et la victoire de Crulaville, puisque ce que l'on sait peu également, c'est que dans notre secteur a eu lieu une grande bataille entre la résistance et les troupes allemandes. Et cette bataille de Crulaville, qui est commémorée tous les ans le 15 août, où le maquis Mario est d'ailleurs très très actif pour ses commémorations, cette bataille est une victoire en fait de la résistance sur les troupes nazies. Et nous avons la chance d'avoir cette belle page d'histoire, parce que c'était là, je pense, c'est une des rares fois où la résistance a pu, avec plusieurs maquis, s'organiser pour pouvoir lutter efficacement de manière coordonnée contre les troupes allemandes qui pourtant avaient mis de gros moyens pour essayer de vaincre ces maquis, hein, qui les perturbaient sur leurs axes de repli, qui les harcelaient en permanence. Et vous voyez, on commémore les batailles du Vercors, des Glières, qui ont été quand même des combats durs et qui à ce moment-là ont fait souffrir la résistance. Là, on a une victoire de la résistance sur les troupes allemandes. Donc c'est plutôt une vraie fierté nivernaise et morvandelle que de commémorer cette bataille qui a lieu, en fait, cette commémoration a lieu tous les ans le 15 août, où les maquis, c'est le serment de Crulaville, où tous les maquis avaient fait serment de se retrouver tous les ans à Crulaville le 15 août. Voilà. Et bien évidemment, on aura une autre exposition sur la mémoire et la fraternité en Morvan, où on montrera un petit peu comment la mémoire a été conservée depuis la fin de la guerre jusqu'à maintenant, avec les différentes commémorations, l'élaboration des différents monuments, et comment cette mémoire a été conservée, et comment les liens ont été vraiment préservés. Voilà. Et donc ensuite, on a la projection de différents films, notamment sur Jean Longhi, des films qui avaient été tournés à l'époque par Thierry Martinet, et des films sur les événements liés au crash des avions à Marigny-l'Église, qui avait été utilisé également pour les 70 ans. Donc tout ça, ce sera installé dans le cadre de la cérémonie à la ferme d'Ego, avec une projection dans la grange, avec les différents stands, et également un spectacle en soirée avec une troupe de professionnels qui sera intitulée donc la mise en lumière, un été 1944 à la ferme d'Ego, mise en lumière des hommes et des femmes de l'ombre.
Donc beaucoup de temps fort.
Beaucoup de temps fort, puisque le lendemain, le 15 juin, ça sera une journée grand public, avec le même schéma, c'est-à-dire les différentes thématiques, les projections et le spectacle.
Et est-ce qu'on peut retrouver justement tout ce qui est programmé lors de ces cérémonies sur un site internet, une page Facebook?
Oui, alors vous avez une page dédiée aux carpetbaggers et une page dédiée à la résistance dans la Nièvre. Donc vous pouvez retrouver sur Facebook toutes ces informations en recherchant sur ces différentes pages. Et nous avons également créé une page intitulée Overlord en Morvan, un été 1944 à la ferme d'Ego. Voilà. Donc toutes les informations sont en ligne, accessibles, avec les différents programmes.
Et puis bien évidemment, on invite le grand public à venir lors de toutes ces cérémonies.
Tout à fait. Et tout ça, en fait, est mis en forme avec l'aide des trois communes avec lesquelles on travaille. Donc la commune de Marigny-l'Église, la commune de Chalot et la commune de Saint-Martin-du-Puy, où je tiens d'ailleurs à remercier nos trois maires qui sont très très actifs. On travaille avec eux depuis un an, voire un an et demi sur le sujet. Et puis pour certains, on travaille déjà depuis les 70 ans, donc plus d'une dizaine d'années sur le sujet. Voilà. Alors pas pour préparer ces derniers événements, mais en tout cas sur ces thématiques et sur la mémoire que zoneront régulièrement sur leurs différentes communes.
Thierry Gerbier, en tout cas, moi je vais vous remercier d'être venu nous parler de ces cérémonies à l'occasion du 80e anniversaire. Peut-être un message que vous souhaitez rajouter ?
Et dans ce cadre, je souhaite particulièrement remercier nos mécènes, notamment les établissements Chivert d'Avallon, les entreprises Develay de Saint-Gilles, c'est une entreprise de construction métallique, et Aussitoi d'Ezeray dans le 21. Voilà, qui sont des partenaires précieux pour la réalisation de nos différents événements. Bah écoutez, je souhaiterais simplement lire une petite citation, ce qui avait été écrit il y a à peu près 40 ans par le lieutenant André, qui était donc au sein du Maquis Bernard. Et je voudrais simplement livrer ça à nos auditeurs, parce que je trouve que sa citation est vraiment pleine d'actualité. Donc le lieutenant André disait « L'ultime devoir qui nous reste à remplir à l'âge que nous avons, eux qui avaient combattu, passé le temps de l'action et venu le temps de la méditation, est sans aucun doute de transmettre, sans prétention, mais avec conviction, de tels témoignages à la postérité, en souhaitant que ce que nous avons fait serve d'exemple pour en éviter le renouvellement, ou si le pire devait arriver, donner du courage à ceux qui auraient à combattre de nouveau. C'est le mérite des hommes de l'ombre d'apporter une pierre à l'édifice de ces témoignages. » Voilà, donc ça c'était le lieutenant André, et je trouve que dans notre contexte de 2024, cette citation a un sens particulier. En tout cas, nous inscrivons, les bénévoles du Maquis Camille, dans cette démarche de relais, de témoins pour les générations futures, et pour ne pas oublier ce qu'ont fait les générations nous ayant précédés dans ces combats. Et je témoigne personnellement de l'engouement des bénévoles, des gens qui nous aident, comme je le disais à quelqu'un. Nous avons quelquefois des problématiques le soir, on ne sait pas comment les résoudre. Et le lendemain matin, miraculeusement, un message arrive et on trouve quelqu'un pour nous aider dans tous les domaines. Et c'est vraiment très très agréable, et c'est une véritable aventure humaine.
Merci beaucoup Thierry Gerbier.
Merci Pascal.
Thierry Gerbier, membre de l'amicale du Maquis Camille. Retrouvez les rendez-vous qui seront proposés sur le Morvan en allant sur la page Facebook Overlord Morvan, un été 1944 à la ferme des Côtes. Voilà ce que nous pouvions donc dire à ce sujet. On se dirige à présent du côté du flash d'info de midi. On se retrouve bien sûr juste après. Ne bougez pas et bon appétit à tous.
Au printemps, on écoute la nature qui se réveille.
Et pour faire vibrer les beaux jours, savourez les fruits et légumes de cette belle saison. Retrouvez-vous autour d'un apéro en terrasse ou d'un barbecue au jardin. Bref, faites pétiller le printemps.
Idée apéro et barbecue, accord avec le cidre. Laissez-vous surprendre sur cidredefrance.fr.
Unique et multiple, 100% made in local, le cidre fait pétiller le printemps.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
C'est le printemps, ça pétille, la minute saveur et cidre.
Les produits de saison reviennent pour agrémenter les repas et apéros au retour des beaux jours. Le chef étoilé Thierry Marx nous fait le plaisir de partager ses conseils pour en faire des moments d'exception. Mais avant, on écoute Clément Baudas, producteur de fraises dans le Lot-et-Garonne. La fraise de France est-elle une bonne compagne des apéros de la belle saison ?
Alors la fraise accompagne très bien les apéritifs du printemps. Pour les premières fraises, notamment les garriguettes, qui amènent une légère pointe d'acidité. On peut les faire sous forme de brochettes avec du concombre et de la feta, donc simplement. Et également sous forme de toast avec de la feta et de l'avocat. Autre idée, vous pouvez également faire des bruschetta, donc avec de la burrata, ciboulette et fraises. Donc bon appétit et bon apéro.
Le moment cidre du chef Thierry Marx.
Clément, il nous amène sur la fraise en entrée. C'est une très très bonne idée, moi je défends ça. Alors après, moi je ramènerais plutôt un fromage frais, bien français. Et peut-être, je vous donne un exemple, c'est une salade de fraises en entrée, avec une pointe de vanille, un vinaigre de cidre très réduit, et là-dessus, un verre de cidre.
Thierry Marx, une idée pour faire de cet apéro un moment unique avec le cidre ?
Je vais marier tout ça avec un cidre frais et acidulé. Pas oublier que la fraise va garder, surtout servie en entrée, comme ça, un peu de fraîcheur. Vraiment, j'insiste sur le frais et acidulé, parce que là, j'aurai une très jolie entrée, un peu exotique, hein, on y a mis une petite pointe de vanille, et je vais ramener un cidre là, avec toute sa fraîcheur, et tout son acidulé qui va accompagner la fraise longtemps en bouche, sans l'abîmer finalement. Une fraise, c'est très fragile, il faut pas la brusquer.
Unique et multiple, 100% made in local, le cidre fait pétiller le printemps. Plus d'infos sur le site cidredefrance.fr.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
On poursuit avec les titres de l'actualité locale.
Que se passe-t-il dans vos communes ?
Titre du journal du centre, tout d'abord, on parle des bistrots dans le fait du jour, des lieux qui sont souvent eh bien, les derniers endroits d'activité dans certains bourgs. L'exemple est pris avec le Café de la Place à Cécy-les-Bois, près de Cône-sur-Loire. À 73 ans, la patronne des lieux depuis 1985 cherche à passer la main après près de 40 ans à servir derrière son comptoir. L'occasion de faire un état des lieux des débits de boissons dans le département grâce aux chiffres de l'INSEE. En 2008, 28% des communes hivernaises avait au moins un bar, on en comptait 49 à Nevers. En 2023, pardon, ce sont à présent un tiers des communes où l'on trouve des cafés, notamment dans le Morvan. Leur nombre a augmenté de 19% ces 16 dernières années. Un département qui n'aurait jamais d'ailleurs compté autant de bars, avec 261 établissements ouverts selon les derniers chiffres de mars 2024. Des établissements qui semblent s'ouvrir principalement dans des petites communes de moins de 1000 habitants. Justice, le manque de médecins pose des problèmes pour les injonctions de soins, mais dans la Nièvre, le dernier médecin régulateur a pris sa retraite et n'a pas été remplacé. Une situation compliquée qui amène parfois les condamnés à rencontrer les médecins coordinateurs de Lyon à Auxerre. Une situation pas unique au département, les juridictions voisines semblent rencontrer les mêmes problématiques. Le portrait du jour, celui d'Isabelle Albignac. Elle est chargée de médiation, de diffusion et de suivi des aides pour la valorisation et la restauration du patrimoine à la Cabozine. Avec un joli bagage, elle était le profil parfait pour ce poste pris en 2023. Elle se définit elle-même comme le couteau suisse de la culture à la Cabozine. Santé, une nouvelle bourse en direction des étudiants en médecine. Jusqu'à maintenant, les étudiants touchaient la même somme s'ils effectuaient leur stage à 20 km de Dijon ou dans la Nièvre. Afin de combler l'écart et financer les déplacements, le Pays Val-de-Loire-Nivernaise va mettre en place une bourse de 800 euros en direction des internes qui viendraient faire leur semestre dans le département. Les externes auront le droit à 200 euros pour un stage de 7 semaines. Afin de faire connaître ce dispositif, un stand a été installé dernièrement devant l'amphithéâtre des internes à Dijon. De nombreux échanges ont ainsi pu avoir lieu. Une douzaine d'internes qui ont choisi la Nièvre se sont montrés intéressés. En parallèle, un week-end découverte sera de nouveau organisé. Il aura lieu du 7 au 9 juin afin de permettre aux étudiants de découvrir les richesses du département, mais aussi l'univers professionnel. Agriculture, dans le cadre de la démarche Imagine la Nièvre, une nouvelle visite de terrain a eu lieu par l'Observatoire des citoyens autour de l'agriculture de demain. Il était question pour cette visite du thème de l'agriculture de conservation des sols, une méthode sans travail du sol à base de couverts végétal et de semis directs sur l'exploitation de Thierry Beauvais à Pougny, un agriculteur qui défend une agriculture raisonnée, une méthode qui lui a permis de diviser par 5 la quantité d'engrais utilisée, mais aussi d'avoir un sol moins sec. Communauté de communes, Tanèbre, Rinon, Corbigny. Les élus se sont réunis jeudi dernier à Corbigny. À l'ordre du jour, la validation des budgets primitifs 2024 ainsi que le vote du taux des taxes qui reste inchangé. Autour de la voirie, le programme d'entretien 2024 a été dévoilé avec de nombreux chantiers programmés. Autour de l'opération de construction de la maison de santé de Corbigny, l'Assemblée a accepté la réception des travaux réalisés et le bilan de clôture. En page Morvan, sapin de Noël vers une IGP, indication géographiquement protégée. Une réunion publique avait lieu à Ouroux-en-Morvan pour faire le point sur cette démarche engagée depuis plusieurs mois par une douzaine de producteurs. Cette réunion, organisée par la sous-préfète de Château-Chinon, Madame Yosser Kaberi, a permis de nombreux échanges entre producteurs sur les atouts, mais aussi les questionnements autour de cette labellisation. À Moulins-Gilbert, un joli projet mené par les élèves du lycée agricole de Château-Chinon sur demande du comité des foires. Le portrait de 9 élèves avec texte et photos ont été réalisés. Ils sont exposés au marché du cadran de Moulins-Gilbert jusqu'au 29 avril. L'objectif était de mettre en lumière plusieurs générations d'éleveurs, mais aussi les différents types d'élevage. Un travail qui a permis aux élèves de rencontrer et d'échanger avec les éleveurs. Une opération qui aura séduit les jeunes qui sont prêts à recommencer. Et puis enfin tourisme, la saison touristique de la communauté de communes Morvan, Sommet et Grand Lac a été lancée dernièrement au domaine du Bois du Loup, au lac de Saint-Agnan. Une quarantaine de prestataires touristiques se sont ainsi retrouvés pour d'une part découvrir les activités proposées par le domaine, mais aussi plus largement d'échanger sur les activités de chacun et les grands événements de cette saison 2024, avec notamment le 80e anniversaire de la Libération et une vingtaine d'événements prévus, mais aussi de nombreux festivals, comme le Festival itinérant des Grands Lacs du Morvan et sa musique baroque, ou encore le festival Salsa Bachata en Morvan et bien d'autres encore. Voilà des titres à retrouver dans le journal du centre du jour. Et puis dans le reste de l'actualité, l'ARS s'engage aux côtés des académies de Besançon et Dijon pour une école dite promotrice de santé. Une convention a été signée qui actualise les engagements réciproques et s'inscrit dans la démarche école promotrice de santé. Elle vise 4 objectifs prioritaires: bâtir l'école pour tous, pleinement accessible aux jeunes en situation de handicap et accompagner leur parcours en favorisant leur autonomie jusqu'à l'insertion sociale et professionnelle. Deuxième priorité, développer les actions de prévention, de promotion et d'éducation pour la santé. À ce titre, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le papillomavirus humain se déroule à partir de ce mois d'avril dans les collèges de la région. En ajoutant les vaccinations réalisées en ville, 35% des élèves de 11 ans de Bourgogne-Franche-Comté ont reçu une dose de vaccination, ce qui fait de la région la deuxième de France en matière de couverture vaccinale. Et puis enfin quelques mots de sport avec un message d'encouragement et de félicitations du conseil départemental. Les 13 et 14 avril à Mantes-la-Jolie, les couleurs de la Nièvre ont brillé lors des championnats de France de fond de canoë-kayak, une discipline dans laquelle les athlètes de notre département se sont illustrés depuis les années 50 jusque sur les podiums des Jeux Olympiques. Ce week-end, 6 médailles d'or ont en effet été pêchées par les athlètes de l'Espérance Canoë de Cise Saint-Léger-des-Vies. L'équipage du Canoë Club Nivernais a décroché la médaille d'argent en para-canoë vétéran 2. Ces résultats confirment encore la tradition d'excellence du canoë-kayak nivernais et la qualité de la formation qui est dispensée dans ces clubs depuis des décennies. Bravo à eux.
Que se passe-t-il dans vos communes?
Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. La suite de l'Infomag, c'est avec la page météo et c'est juste après ça.
Stress, forme physique, nutrition, sommeil.
Au travail aussi, pensez à prendre soin de vous.
Pour garder la forme et entreprendre l'esprit serein, pour allier performance et bien-être, pensez relaxation, exercice régulier, alimentation équilibrée, repos.
La santé, c'est aussi au travail.
Un message de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur.
Nos conseils sur le site fondation-entrepreneur.mma. La santé, c'est aussi au travail. Le flash forme et bien-être de tous ceux qui entreprennent.
Le stress est la première cause du mal-être des entrepreneurs. Les difficultés économiques et la surcharge de travail sont le plus souvent les causes invoquées. Hervé Frapsos, président de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, a souhaité mener une étude sur la santé de ceux qui entreprennent pour mieux comprendre ce phénomène.
Notre organisme est fait pour supporter 4 à 5 périodes de stress par semaine. Or, l'entrepreneur en supporte plus de 50 par jour. Notre baromètre montre que ce stress reste un fléau récurrent pour de nombreux entrepreneurs. Mais, point positif, 4 entrepreneurs sur 10 pratiquent déjà des activités mentales pour maîtriser ce stress. Yoga ou méditation, par exemple.
Pratiquer une discipline qui permet d'être pleinement conscient de l'instant présent et de ses émotions aiderait à réduire le stress et à lutter contre la dépression. Les explications de Lucie Pascuto, sophrologue et spécialiste de la méditation de pleine conscience.
Saviez-vous que notre cerveau génère plus de 60 000 pensées par jour ? La particularité de ces pensées, c'est de nous amener essentiellement dans le passé ou nous projeter dans le futur. Alors que le seul moment où vous pouvez véritablement agir sur vos vies et prendre des décisions en tant qu'entrepreneur, c'est ici et maintenant. La pratique de la méditation de pleine conscience est un bon moyen d'apprendre à se poser dans l'instant présent. Les neurosciences démontrent aujourd'hui ses nombreux bienfaits. Et la bonne nouvelle, c'est que 10 minutes par jour suffisent et que ça peut se pratiquer partout et à tout moment, que ça soit chez vous, sur votre lieu de travail ou même dans les transports. Pour découvrir la méditation, n'hésitez pas à télécharger une application mobile spécialisée, telle que par exemple l'appli gratuite Mindful Attitude. Bonne méditation !
Relaxation, exercice régulier, alimentation équilibrée, repos, au travail aussi, pensez à prendre soin de vous.
Un message de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur.
Nos conseils sur le site fondation-entrepreneur.mma.
Poursuit avec la page météo. Demain, mercredi, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Le ciel restera couvert dans la matinée. Quelques brouillards sont possibles sur le Morvan, mais aussi quelques gouttes de pluie. Le vent, lui, aura quasiment faibli, mais les températures resteront toujours fraîches. On attend 3 degrés demain matin à Château-Chinon et Monceau chez les Cétons, entre 6 et 7 degrés sur le reste du département. Puis, au fil des heures, quelques timides éclaircies pourraient se dessiner, mais le risque d'averse n'est toujours pas à exclure et les températures resteront plutôt basses, comprises entre 9 et 12 degrés. Le vent pourrait lui aussi ressouffler sur certaines localités. Puis pour la fin de semaine, c'est encore un temps plutôt instable qui se met en place, avec toujours des températures plutôt basses et la possibilité toujours de quelques gouttes, mais nous y reviendrons. Et puis nous terminerons avec l'association Dream. Nous parlerons du lancement des descentes en para-rafting dans la Nièvre. En effet, l'association a travaillé avec AN Rafting Morvan à la réalisation d'assises adaptées pour rendre les rafts accessibles aux personnes à mobilité réduite. Avec ces équipements, il sera ainsi possible de faire des descentes sur le chalot et la cure. C'est une première dans le Morvan et déjà des volontaires se sont présentés pour tester l'équipement. La première descente aura lieu le 9 mai prochain au départ de Plaine-Fa. On en parle dans quelques instants avec Tom Erard, président de l'association Dream. L'occasion également de faire un point sur le passage de la flamme olympique, car nous vous le rappelons, Tom Erard a été choisi comme porteur de la flamme pour une partie régionale. Angélique Tolmer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous pouvons peut-être tout d'abord débuter cet entretien avec un bilan de la saison précédente.
Oui, tout à fait. Alors, sur l'année 2023, on a accueilli dans l'établissement thermal 2119 curistes, donc plus de 25% par rapport à l'année 2022. Donc, très encourageant pour Saint-Honoré-les-Bains.
Ces curistes, sait-on d'où viennent-ils et quel type de soins ils viennent rechercher ici à Saint-Honoré?
Oui, alors la plupart des curistes proviennent du Nord, ils proviennent également du Nord-Est et de Paris. Ce qu'ils recherchent à Saint-Honoré-les-Bains, c'est... ils viennent pour la rhumatologie et les voies respiratoires. Et ensuite, ils recherchent des petites structures familiales et conviviales.
Alors, cette fermeture hivernale est bien sûr l'occasion de faire quelques travaux. Et il me semble que cet hiver, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées du côté des thermes.
Oui, tout à fait. Donc, du coup, on a eu une belle enveloppe d'investissement. Donc, on remercie infiniment le groupe Chaîne Thermale de croire en Saint-Honoré-les-Bains. On a pu avoir notamment une première phase de travaux sur le vestiaire avec de nouvelles cabines qui ont été installées. On prévoit d'autres choses pour l'année prochaine pour ce vestiaire. On a également eu des travaux d'aménagement au niveau des douches pénétrantes, des douches OG, donc refonte complète des cabines, que ça soit l'étanchéité ou la mosaïque et la faïence. On a eu également des aménagements faits sur les étuves générales et locales, avec la refonte complète également du plafond, l'extraction d'air. Et au niveau des gros travaux, ça va être sur la chaufferie avec l'installation de deux chaudières à gaz.
Tout ça toujours pour améliorer le parcours et le confort des curistes.
Tout à fait, le parcours, le confort, et puis pour sauvegarder ce patrimoine à Saint-Honoré-les-Bains.
Et oui, effectivement, c'est vrai que cet établissement est assez remarquable, il faut le préciser.
Tout à fait, il date de 1855 et il y a eu quand même pas mal de travaux de fait pour essayer de moderniser, mais tout en gardant le cachet du patrimoine.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe des thermes à Saint-Honoré-les-Bains?
Alors, sur l'équipe thermale, on va avoir les agents thermaux qui sont dans les soins. On a une infirmière également sur le service du matin. On a des hôtesses d'accueil qui sont là pour accueillir nos curistes et faire les petits plannings de soins. On a trois personnes aux techniques qui gèrent voilà toute l'installation technique, les arrivées d'eau également. Vous allez avoir la blanchisserie avec deux personnes à la blanchisserie. Et on a les agents d'entretien des locaux qui sont là, qui font aussi un travail remarquable.
Oui, c'est important de préciser, de présenter l'équipe dans son intégralité, en effet.
Tout à fait, voilà. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre, et qu'on ne remarque pas spécialement, mais qui font un travail vraiment remarquable sur la station aussi.
Alors, les premiers curistes sont donc de retour à Saint-Honoré-les-Bains depuis quelques jours maintenant. Comment s'annonce cette saison 2024 ?
Très bonne.
Oui.
Très bonne. Alors d'aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, on est à plus 23% au niveau des réservations. Donc ce qui est encore encourageant pour cette année. Hier, on a regardé un petit peu les chiffres. On a passé la barre des 2000 réservations. Donc voilà, c'est plutôt réconfortant pour Saint-Honoré.
Alors avant de parler des nouveautés de cette année, j'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon de l'offre de soins qui est proposée par l'établissement, une offre qui est de plus en plus étoffée et qui s'ouvre également, mais pas seulement aux curistes, mais aussi aux habitants. Hein.
Tout à fait, avec la partie détente et bien-être, où là, les après-midi, nous ouvrons la piscine aqualudique, hein, qui est accessible à tout le monde. Donc toujours dans une eau thermale à 34 degrés pour confort. Hein. Vous avez également des soins d'eau avec des bains, des eaux thermales, des douches. On a la partie spa, donc qui est logiquement tenue par une esthéticienne. Cependant, cette année, on a des difficultés à recruter une esthéticienne. Donc j'en profite d'être à l'antenne pour passer une petite annonce. Nous recherchons toujours une esthéticienne pour la saison 2024. Donc, n'hésitez pas à me recontacter si vous êtes intéressé.
J'espère que le message aura bien été entendu. Ces offres locales, les habitants s'en sont saisis ?
Tout à fait. Voilà, ça commence à prendre un petit peu au niveau de la piscine. Les locaux, les touristes également, hein, parce que c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et les gens viennent découvrir la station de Saint-Honoré parce que voilà, ils savent pas qu'on a la partie détente et bien-être. Donc voilà, c'est l'occasion de venir découvrir et de passer un bon moment dans cette station.
Et concernant l'offre de soins plus largement ?
Alors, concernant l'offre de soins, on a fait quand même pas mal de nouveautés cette année avec des programmes complémentaires, notamment sur la randonnée parce que la région s'y prête. Et là, pour le coup, c'est un programme qui est sur 3 semaines autour de la randonnée, autour de Saint-Honoré-les-Bains surtout. Et voilà, on pense que ça pourra fortement intéresser nos futurs curistes au niveau du Morvan.
C'est-à-dire, comment ça va se passer ? Le matin, on est à la cure, l'après-midi, on randonne ?
Alors voilà, tout à fait. Le matin, c'est les soins médicaux et l'après-midi, c'est des ateliers autour de la randonnée.
Alors, on est encadré par un éducateur en activité sportive adaptée. Hein. C'est important de le dire.
C'est ouvert à tous. Hein. Voilà, on laisse pas les curistes partir comme ça en randonnée tout seul. Tout est encadré par un éducateur. Hein.
Déjà des adeptes pour cette nouvelle proposition ?
Alors, pour le moment, on nous sollicite pour avoir beaucoup de renseignements. On a deux dates. Hein. Il y en a une qui commence le 15 avril et la prochaine le 10 juin. Ça sera plus à partir du 10 juin que les personnes... C'est tout nouveau, on en parle et ça va prendre... Donc, d'ici le 10 juin, je pense qu'on aura quand même quelques adeptes à ce programme... complémentaires randonnées.
On peut parler également sophrologie aquatique du côté des nouveautés.
Oui, tout à fait. Nouveauté cette année sur les animations autour de la santé. On va faire de la sophrologie aquatique, donc avec Madame Duba qui intervient de Nevers. C'est la seule sur le département à pouvoir dispenser ce type d'atelier. Et donc le premier cours a eu lieu mardi et ça a vraiment eu son succès auprès de nos curistes.
C'est quoi en quelques mots la sophrologie aquatique ?
Alors vous apprenez à respirer, à vous détendre dans l'eau. Vous êtes dans le bassin aqualudique hein, toujours. Et en complément, Madame Duba vient vous apprendre tous ces gestes pour lâcher prise.
Vous ouvrez également des ateliers autour de l'aromathérapie.
Tout à fait, l'aromathérapie qui est nouveau cette année et qui est tenue par Essabi, qui est sur Saint-Honoré-les-Bains. Et donc là, elle vient vous parler des huiles essentielles, principalement.
Et puis enfin, on peut également parler de ce programme d'eau.
Le programme d'eau, donc toujours pareil, hein, en complément de votre cure thermale. Donc c'est des ateliers donc bien spécifiques, hein, pour les douleurs au niveau du dos, la partie dorsale, hein, donc avec des modelages, de l'hydromassant, de l'aquagym. Tout a vraiment été sélectionné pour compléter votre cure et que ça soit bien spécifique autour du dos.
Et puis pour compléter tout ça, il y a quelques nouveautés pour le cadre de vie avec l'ouverture d'une boutique, notamment une nouvelle boutique qui change de place.
Tout à fait. Donc très prochainement, une nouvelle boutique à Saint-Honoré-des-Bains qui sera située juste à côté de l'administration pour que les locaux, les touristes et les curistes puissent y accéder plus facilement. Auparavant, elle se situait à l'intérieur du bâtiment, sauf qu'on a préféré en fait la délocaliser, si on peut dire ça, pour pouvoir installer la tisanerie, la salle de repos, nous, au niveau du grand hall central.
Une tisanerie, une salle de repos qui se refait une cure de jeunesse chaque année, hein.
Tout à fait, voilà, on essaye de l'aménager un petit peu tous les ans, et les curistes en raffolent.
Bon, bah, ça s'annonce vraiment une belle saison du côté de Saint-Honoré-les-Bains.
Oui. On croise les doigts, mais voilà, on voit que c'est bien parti et il n'y a pas de raison pour que ça continue pas dans ce sens-là.
Alors, on peut inviter nos auditeurs, hein, à ne pas hésiter à venir en découvrir, hein, ce que propose, hein, l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains.
Alors, l'administration est ouverte tous les jours, hein, du lundi au samedi. N'hésitez pas à venir à l'accueil pour prendre des renseignements. Je peux préciser également qu'on propose des cures nocturnes, hein, pour les actifs, hein, locaux. La prochaine cure nocturne sera le 23 juin jusqu'au 13 juillet. Et là, pour le coup, quand vous n'avez pas le temps de vous soigner le matin, il est possible de revenir le soir faire des soins thermaux pour vous soigner.
On trouve forcément quelque chose qui est adapté donc à sa situation. Pour plus de renseignements, eh bien, on n'hésite pas à vous contacter. Merci beaucoup, Angélique Tolmer. Vous voulez rajouter dernier mot? Je vous laisse le mot de la fin pour conclure.
Eh ben, bienvenue à Saint-Honoré. N'hésitez pas à venir vite nous rencontrer.
Eh ben, j'espère que le message a bien été entendu. Merci beaucoup.
Merci à
voilà,
vous.
Voilà, Tom Erard, président de l'association Dream. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a notamment la page Facebook.
Nous avons tous une relation particulière à la rivière, sans forcément avoir conscience de tout ce qu'elle abrite. Les milieux aquatiques sont précieux et fragiles. Il est crucial de les protéger.
1,5 million de pêcheurs, plus de 40 000 bénévoles et salariés du réseau associatif de pêche de loisirs se mobilisent au quotidien.
À leur côté, apprenez à mieux connaître nos cours d'eau pour mieux les protéger. Rejoignez le mouvement sur fédérationpêche.fr.
Sauvons nos rivières. Une campagne de sensibilisation de la Fédération nationale de la pêche en France.
Sauvons nos rivières. La Minute Info pour comprendre et agir.
La protection des poissons et des milieux aquatiques passe aussi par le partage des connaissances auprès de toutes les générations. Dans le cadre d'une convention avec l'éducation nationale, le réseau de pêche de loisirs organise ainsi plus de 4000 demi-journées pour sensibiliser les jeunes à l'environnement. Bonjour Adrien Rocher, vous êtes animateur environnement à la Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône. Quelles actions mettez-vous en place auprès des scolaires?
On essaie de toucher un petit peu tous les niveaux, hein. On part de la maternelle jusqu'au collège ou au lycée. Alors en général, on essaie de rencontrer d'abord les profs pour essayer de voir un petit peu quel programme on peut mettre en place. On va choisir un lieu de rivière ou un plan d'eau proche de l'école des enfants. On observe, on détermine les animaux qu'on a pêchés, on les dessine, on tire des conclusions sur la qualité de la rivière. Dans cette première phase d'observation, il y a eu également une prise de conscience de notre environnement, donc à travers qu'est-ce qui constitue le paysage. Et après, donc, cette première séance est suivie par des séances en classe. En quoi l'arbre va rendre service à la rivière? Qu'est-ce qu'un bassin versant? Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? Si on a un impact sur un maillon de cette chaîne alimentaire, quelle peut être la répercussion sur tous les autres maillons de la chaîne alimentaire? Ça permet aux enfants de comprendre que chaque espèce est importante, en tout cas pour le cycle général de la vie et pour toutes ces chaînes alimentaires qui sont vraiment reliées entre elles. Notre mission, c'est de sensibiliser le plus grand monde au respect des milieux aquatiques. On part des scolaires, en passant par le grand public, en passant par les institutionnels qui vont nous permettre d'arriver à nos objectifs de respect des milieux aquatiques et de protection des milieux aquatiques.
Sauvons nos rivières. Apprenez à mieux connaître nos cours d'eau pour mieux les protéger aux côtés des pêcheurs. Rejoignez le mouvement sur fédérationpêche.fr.
Sauvons nos rivières. Une campagne de sensibilisation de la Fédération nationale de la pêche en France.
C'est avec cette chronique que nous terminons cette édition de l'Infomag. Comme chaque jour, on se quitte avec le programme télé. Prochain rendez-vous, bien sûr, dès demain, même endroit, même heure. Merci de votre écoute. Très bonne fin de journée et à très vite.
Retrouvez sur Radio Morvan les programmes télé de votre soirée.
Bonjour, ma sélection télé pour votre soirée du mardi 16 avril sur TF1 Koh-Lanta, nouvel épisode du jeu d'aventure présenté par Denis Brognard sur France 2, les derniers secrets de l'humanité, documentaire. Il y a 2 millions d'années, les Homo erectus sortent d'Afrique, infatigables, ils atteignent le Moyen-Orient, l'Europe, mais aussi l'Asie, dans des paysages allant des steppes glacées jusqu'aux forêts tropicales. Sur France 5, enquête de santé, magazine documentaire sur le thème « Peut-on faire confiance à la naturopathie ?» Sur M6, Arnaque, magazine présenté par Julien Courbet. Sur France 3, Face à Face, téléfilm. Sur C8, The Mask, film avec Jim Carrey. Stan Lipke, c'est un timide employé de banque. Un jour, il découvre un masque mystérieux. Le porteur permet à sa personnalité de s'épanouir et fait disparaître toutes ses craintes. Et puis sur TFX, Les Vacances de Ducobu, film avec Elise Moon. Tout le monde adore les vacances. C'est encore plus vrai pour Ducobu, qui déteste l'école. Le hasard met sur son chemin une carte mystérieuse menant à un trésor de pirates. Très belle soirée télé à tous.